Au Mali, la sortie de la France se matérialise de plus en plus, jouant le rôle de conseiller ou plutôt de personne clé s'ingérant dans les affaires intérieures du Mali, souvent dans certaines structures étatiques. Les coopérants français ne sont également pas épargnés, invités à rentrer au plus tard fin mars dans leur pays. La révélation a été faite hier, donc mardi 1er mars, et dans cette dynamique, il a été dit dans certains médias que le président Emmanuel Macron a donné jusqu'à mercredi 2 mars, justement en coopérant pour cesser toute collaboration avec les autorités maliennes. Une situation qui confirme la mise à la porte donc de Paris par Bamako. Les coopérants français sont en fait toutes ces personnes dotées d'une soi-disant expertise dans certains domaines et qui sont installées à des postes clés pour ainsi faire passer des intérêts de la France dans le pays et saper les évolutions du pays. Ces coopérants donc interviennent dans tous les secteurs d'activité du pays, dans des départements ministériels, aussi bien que dans certaines directions nationales, etc. Selon un média mainstream, donc comme Jeune Afrique, le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Mali, Laurent Favier, aurait informé les autorités maliennes de la décision relative au rappel des coopérants français. Et si cette information s'est avérée vraie, elle ne pourrait s'inscrire que dans la logique du fameux divorce, comme l'appellent les médias mainstream, entamé entre les autorités françaises et maliennes depuis le début des manifestations anti-françaises, en tout cas au Mali, en 2019. La situation entre les deux pays s'est encore détériorée depuis que le Premier ministre Choguel Kokalamaïga a balancé des vérités concernant le rôle de premier plan de la France dans les problèmes du Mali. Après le discours mémorable donc du Premier ministre malien à l'ONU, c'est à partir de là que Paris a qualifié la transition d'illégitime et que la France a montré son vrai visage et son vrai mépris envers le Mali et même toute l'Afrique. Bamako s'est alors farouchement révolté contre Paris en posant des actes et des paroles qui ont fait trembler donc toute la France. D'ailleurs, les vérités remontent toujours à la surface à un moment donné ou un autre, et ce, dans le cadre d'une politique souverainiste que défend actuellement le Mali. La vieille affaire de l'actuel ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est également remontée à la surface depuis un certain temps. Mais la plainte introduite auprès du pôle donc économique et financier de Bamako contre l'actuel ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, pour son implication dans l'attribution du marché frauduleux des passeports maliens et les démarches à entreprendre dans les prochains jours, était au centre d'un point de presse donc de hier, toujours le 1er mars, mardi, à la Bourse du Travail. Ce point de presse était animé par le président du mouvement Maliko, Zanga Goïta, le porte-parole de ce mouvement, Boubacar Paitao, et la vice-présidente Assiétou Traoré. Selon les conférenciers, dans le cadre de ces missions de lutte contre la mauvaise gouvernance, afin de restaurer l'honneur et la dignité du Mali, le mouvement Maliko, composé de plusieurs organisations de la société civile malienne, à travers ses conseils, a déposé ce mardi, donc déjà 22 février, une plainte devant le pôle économique et financier de Bamako contre Le Drian. En 2015, nous avons appris que le marché de confection donc du passeport malien était attribué par le gouvernement du Mali à la société Imedia, connue auparavant sous l'appellation Oberture Technologies. Pourtant, c'est Banknote, une société canadienne, qui détenait ce marché, lit-on dans leur déclaration. Le montant de ce marché passé entre le gouvernement et la société Imedia se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA, rappellent ces militants. Il a été attribué donc de gré à gré à la société Imedia sans appel d'offres ni appel à candidature et autres procédures prévues pour les contrats administratifs. En clair, le mouvement Maliko estime que les textes n'ont pas été respectés. Les procédures et règles instituées par la législation malienne, donc portant donc du 25 septembre 2015, code des marchés publics, ont été allègrement violés à l'occasion de l'attribution du marché suspensionné, déplore-t-on. Pour le non-respect des textes, de vives interpellations ont été provoquées à l'Assemblée malienne dans cette affaire. Aussi, les conférenciers soulignent que le non-respect de ces textes a été, dans cette affaire, mal perçu au sein de l'opinion publique malienne. L'histoire remonte donc à 2015. Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, a en charge l'opération Barkhane. Il profite de sa position pour tordre le bras à Ibeka, le président de la République du Mali à cette époque, afin que l'entreprise bretonne Imedia obtienne le marché de passeports maliens et remplace la société canadienne Banknote, qui était jusque-là chargée de la confection de ces documents. Les tués suivants, Le Drian, donc, voyait sa cote de popularité chuter à l'Élysée et au point que l'hypothèse de son départ du gouvernement était évoquée, rappellent les conférenciers. Le pire dans cette histoire est que Thomas Le Drian, donc le fils du ministre Le Drian, demeure le principal actionnaire de la société immédiate. En tout cas, le mouvement Malico reste clair sur la question. Il ressort des investigations que l'actionnaire principal de la société immédiat adjudicataire, donc du marché public de confection de passeports maliens, n'est autre que M. Thomas Le Drian, le fils de Jean-Yves Le Drian, actuel ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et ministre de la Défense au moment des faits. Jean-Yves Le Drian a également usé de son influence auprès de nombreux autres États, singulièrement en Afrique et même dans les Émirats arabes unis, pour, confiant les conférenciers, donc faire du lobbying au profit des intérêts de son fils et de ses amis. Dans ce cas précis de passation de marché public des passeports maliens, les agissements de l'incriminé donc ont consisté à se procurer des avantages, car par l'interposition et en complicité avec des agents publics, et le mouvement donc de préciser que les 10 agissements sont prévus et punis par le code pénal malien. C'est compte tenu de ces facteurs que les membres annoncent avoir décidé de saisir la justice contre Jean-Yves Le Drian. Nous avons déposé le mardi 22 février déjà une plainte devant le pôle économique et financier de Bamako contre l'actuel ministre Jean-Yves Le Drian pour son implication dans l'attribution du marché frauduleux des passeports maliens, ont-ils annoncé. Notons qu'ils ont également remis une autre plainte au ministre Mamoudou Kassogué. Cette affaire ne représente évidemment qu'un petit grain de sable et que plusieurs autres affaires et de nombreuses plaintes devraient évidemment suivre à l'avenir. Le Mali est en train de mettre à nu les exactions de la France contre le Mali et toute l'Afrique devrait suivre ce pas. La cérémonie avait été assistée par le président ghanéen de l'époque, Jerry Rawlings. Mais 20 ans plus tard, ce conflit reprend de plus belle. L'effondrement de la Libye a conduit les indépendantistes à s'associer avec d'autres groupes terroristes, alliés à la France également, pour faire entrer donc les soldats français par la fenêtre au Mali après avoir été éjectés entièrement par justement Modibo Keïta, qui, au dire du Premier ministre actuel malien, donc, ont bloqué l'avancée des militaires maliens, notamment à Kidal. Une opération qualifiée de légitime par beaucoup du fait que Paris figure parmi les principaux acteurs de la crise libyenne et qui ont donc contribué à la venue des groupes terroristes dans le Sahel. L'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, en 2014, avait affirmé que l'OTAN était responsable de la venue du terrorisme dans le Sahel en s'attaquant et sans aucune concertation avec l'Afrique et les pays voisins, surtout de la Libye. Donc, c'est donc à elle de venir réparer ses erreurs. À ce moment-là, donc, le blocage de l'armée malienne à Kidal par l'armée française va commencer à enfoncer l'État malien dans une position pour le pousser justement au démembrement, notamment avec la signature donc de l'accord très contesté d'Alger en 2015. Et malgré la signature sous pression, ce document restera décrié par nombre de Maliens qui le considèrent comme déséquilibré et largement à l'avantage d'une extrême minorité de la population malienne. C'est pourquoi, d'ailleurs, la relecture de l'accord a été proposée par les forces vives de la nation lors des assises nationales de la refondation en décembre dernier. Mise en place donc du cadre stratégique permanent. Donc, attachés à l'application intégrale de cet accord pour la paix et la réconciliation, les mouvements armés du Nord donc, continuent de réunir leurs efforts afin d'être plus solides. La coordination des mouvements de la Zawad donc, est la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, bien que pro-gouvernemental pour certains, ont fait une annonce de création du cadre stratégique permanent avec l'aide de l'Italie, cette fois-ci à l'issue d'une série de rencontres tenues du 5 au 6 avril à Rome, sous l'égide de l'organisation non gouvernementale italienne Arapakis. Si les objectifs annoncés de cette nouvelle alliance sont notamment de concrétiser la mise en synergie des rapports en faveur de la mise en œuvre diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et d'opérationnaliser les mécanismes conjoints de lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes afin de garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Il faut souligner que les Maliens, dans leur majorité, ont manifesté leurs craintes quant à la finalité de ce mouvement qui veut réunir tous les acteurs de la question nord, y compris les plus sceptiques. D'ailleurs, la dernière rencontre du CSP en Italie, donc sur invitation de l'ONG Arapakis, a suscité beaucoup de débats au Mali. Il a même fallu les précisions du ministre chargé de la réconciliation, Ismaël Ouagé, pour calmer les tensions. Par la dernière sortie du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, l'inquiétude des Maliens sur la bonne foi des ex-rebelles d'enterrer définitivement les haches de guerre et vivre en parfaite symbiose dans un Mali de paix semble de loin écarté. Surtout que la France s'est trouvée en difficulté donc avec les autorités actuelles du Mali. Alors, où les Maliens donc, ont œuvré pour mettre dehors la France, il est clair qu'ils ne veulent pas que leurs agents, qui se trouvent justement parmi ces groupes au nord, restent également au Mali et tentent de saper donc, la politique souverainiste du pays. C'est l'une des raisons pour laquelle Bamako doit faire face à certaines difficultés avec le nord. Certains sont bel et bien prêts à vivre en paix et dans un Mali uni, mais d'autres sont toujours visiblement sous l'aile de la France, notamment les mêmes qui ont été formés par l'armée française même. Si ce groupe demande à l'État malien de clarifier sa position, beaucoup de Maliens demandent plutôt à ces groupes dans le Nord de clarifier leur position. Évidemment, ils peuvent vivre sur le territoire du Nord avec le respect de la souveraineté du Mali, sans démembrement et surtout sans être une porte d'entrée de la politique néfaste française. Beaucoup de Touaregs vivaient déjà dans le Nord et il n'y avait aucun problème, en tout cas pas aussi grave, mais encore une fois, depuis l'arrivée de l'armée française, soi-disant pour venir en aide au Mali, il est clair que le problème s'est amplifié. Le dernier épisode, illustrant donc de ce fait, date du retrait de la question de la police territoriale parmi les projets de loi soumis au CNT. Aussi, une association de la région de Gao, dénommée Gao Lama Borei, s'était exprimée après le communiqué du HCUA pour dénoncer la sortie du groupe HCUA. Donc, elle estime que les ex-rebelles sont dans la provocation en attisant la flamme d'une cause perdue d'avance. Par conséquent, elle a invité le HCUA à s'inscrire dans la logique du gouvernement sur les questions de défense et de sécurité en général et sur l'accord en particulier. Sinon, tout autre comportement serait suicidaire pour le HCUA selon elle. En tout cas, jusqu'à présent, les autorités maliennes n'ont pas succombé aux pressions de la communauté occidentale ou à la solde de l'Occident. Et c'est clair qu'ils continueront de prendre les décisions en phase avec la population malienne. Au Moyen-Orient, comme en Afrique, de plus en plus de pays dénoncent les atteintes aux droits de l'homme, les exactions commises contre les peuples, les plans de déstabilisation des États souverains des pays occidentaux. Mais aucune des plaintes n'est jamais suivie. Il suffit d'un petit discours dans les médias pour nier les faits ou bien de parler de malentendus et l'affaire est ainsi classée. Pas d'enquête, aucun témoignage sérieusement enregistré ni aucune procédure de ce genre n'est réellement mis en place. De nombreux Irakiens, par exemple, afghans, dénoncent régulièrement à travers des plaintes enregistrées auprès des autorités compétentes de mauvais traitements par des soldats étrangers, américains en particulier, des bombardements sur eux et c'est le silence complet de la part de l'Occident. Au Yémen, la population se fait massacrer tous les jours par des bombardements saoudiens et ses alliés. Un blocus aérien, terrestre et maritime a même été mis en place afin de couper nourriture, eau et médicaments à destination de la population et le silence de la communauté internationale domine le tout. Actuellement, de nombreux Africains ont dénoncé notamment leur calvaire subi en Libye et toujours rien. Et de nombreux Africains dénoncent encore les mauvais traitements qu'ils ont subis à la frontière ukrainienne et toujours un silence de mort au sein de la communauté internationale et même un discours de niage coquillage. L'Union africaine s'est dite lundi soir donc préoccupée par le traitement infligé à ses ressortissants qui souhaitent quitter l'Ukraine, mais pour l'Union européenne, il n'y a aucune discrimination avérée. Le service européen pour l'action extérieure, dirigé par Josep Borrell, a échangé ce mardi à ce sujet avec les autorités des deux pays. Varsovie rejette ce mardi 1er mars les accusations de racisme. La Pologne aide tout le monde, quelle que soit sa nationalité, son ethnie ou sa race, assurent les autorités polonaises. Et pour l'Union européenne, il n'y a pas de discrimination avérée, que ce soit en Pologne ou en Ukraine. Donc les témoignages, les vidéos qu'on a pu voir ne comptent visiblement pas du tout à leurs yeux. Toujours rien, alors que beaucoup de pays sont attaqués pour moins que ça dans l'argumentaire des droits de l'homme. Et on a pu voir des ONG établir même des rapports à une vitesse ahurissante concernant par exemple l'Éthiopie dans la guerre contre les rebelles terroristes du TPLF ou encore même en Centrafrique où ces ONG donc, se sont d'ailleurs fait dénoncer d'avoir établi des rapports sans être même présents dans le pays. D'ailleurs, dernièrement, concernant la Centrafrique, le sous-secrétaire général de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix s'est exprimé concernant donc, la Centrafrique et les tensions entre la MINUSCA et Bangui. Je crois qu'il peut y avoir ici et là des malentendus ou des incidents. Mais moi, je regarde avant tout ce que nous essayons de faire en termes de soutien aux efforts politiques pour un retour de la stabilité, le soutien aux populations, notre mission. Les Nations Unies ont un dialogue constant avec le président centrafricain, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les autorités civiles et militaires. Et effectivement, il peut y avoir des problèmes et nous les soulevons de manière transparente. Mais le plus important, encore une fois, c'est le travail de la mission, affirme-t-il. Je ne me prête pas un pouvoir aussi important que de calmer les tensions, mais je crois que ce qui est important, c'est d'abord de maintenir le dialogue à tous les niveaux avec les autorités, mais aussi avec la société civile, avec les populations, avec tous les acteurs. Voilà comment conclut-il la question. Donc bref, rien de concret, aucune suite, même une banalisation des problèmes. La seule chose qui compte, c'est bien sûr la mission de déstabilisation de la Centrafrique et des pays africains en général, et rien d'autre. Voilà ce qu'il en est lorsqu'il y a une seule justice occidentale pour tous les pays hors Occident, une dollarisation qui veut diriger le monde et qui creuse donc les nombreuses inégalités, etc., etc. Voilà pourquoi il est important que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud, la Russie, la Chine, l'Iran, et bien d'autres pays qui doivent s'unir également donc pour mettre en place une justice internationale, un système monétaire propre à eux, etc. Et c'est dans l'Union donc que le procès du blanc pourra être enfin mis sur pied. Face à l'urgence climatique et les politiques de décarbonation du mix énergétique mondial, l'hydrogène vert et bleu ont été identifiés comme susceptibles de remplacer efficacement les combustibles fossiles. Selon le think tank South African Institute of International Affairs, le continent africain a le potentiel pour produire de l'hydrogène de façon durable et rentable, pour jouer un rôle de premier plan dans ce secteur au niveau local, mais aussi à l'échelle globale. Une observation faite dans le rapport intitulé « Assure une transition énergétique juste par l'hydrogène, comment le G20 peut soutenir l'Afrique ?» Selon le document qui place la nécessité d'un environnement politique apaisé au cœur du développement de l'hydrogène, l'abondante exposition au soleil de la région, couplée à la baisse du coût des électrolyseurs et des technologies de soutien, devrait permettre au continent d'exploiter son vaste potentiel en énergie renouvelable. Il a été souligné que l'énergie solaire reste une alternative largement inexplorée sur le continent. Le rapport poursuit avec des investissements soutenus et un véritable engagement politique. Dans ce segment, l'Afrique peut développer sa production actuelle d'énergie propre et devenir d'ici 2050 un centre clé de distribution extra-régionale d'hydrogène. Et à cet effet, le rapport a mis en exergue quelques avantages concurrentiels que sont par exemple les infrastructures et l'emplacement géographique du continent qui lui donne un accès maritime facile aux marchés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est. Depuis août 2021, en RDC, la mine Tenge Fungurume est au cœur de tensions entre l'État congolais soucieux de réévaluer les réserves de cuivre cobalt pour s'assurer un partenariat gagnant-gagnant et China molybdénum, donc propriétaire à 80% du projet. Le tribunal de commerce de Lumumbashi a nommé, donc par ordonnance, un administrateur provisoire à la mine de cuivre cobalt, donc détenu à 80% donc par une société chinoise. Cette décision retire la responsabilité de la gestion de la mine du directeur général actuel chinois au profit donc de Sage Goye Bayo, le représentant de la GK Mine sur le projet. Le nouvel administrateur sera chargé de réconcilier les deux partenaires sur les points de divergence, à savoir l'accès aux informations techniques et aux affaires sociales de la société, précise certains médias. Faut-il le rappeler, c'est la GK Mine, propriétaire des 20% d'intérêt restant dans Tenke, qui a demandé en décembre la nomination de cet administrateur dans un contexte de tension entre le groupe chinois et l'État. Ces tensions ont démarré en août 2021 avec la mise en place par Kinshasa d'une commission chargée de fournir une estimation des réserves de la mine. Depuis peu, d'informations filtrent donc sur l'évolution de cette enquête qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'examen des actifs miniers de la RDC voulu par le président Félix Tshisekedi. Ce dernier estime en effet que les Congolais ont une part insuffisante des recettes générées par les richesses de leur sous-sol et veut renégocier des contrats miniers. Le dernier succès en date de cette stratégie est la récupération par l'État congolais d'actifs miniers et pétroliers évalués à 2 milliards de dollars, acquis précédemment par le milliardaire israélien Dan Gettler dans le cadre d'accords douteux. Au Ghana, comme en Côte d'Ivoire d'ailleurs, la question de la transformation du cacao se pose avec acuité. À côté des investissements étrangers que recherchent les autorités dans ce segment, plusieurs entreprises locales sont actives dans la fabrication de produits dérivés. La compagnie donc ghanéenne West African Mills Company a annoncé un plan d'investissement de 5 millions de dollars dans la mise à niveau de ses installations de traitement de cacao basées dans la zone industrielle d'Efia à Takoradi dans l'ouest du pays. D'après le directeur général de l'entreprise, l'enveloppe permettra de procéder à des achats de nouveaux équipements pour moderniser ses unités de production de liqueurs de cacao et d'extraction de beurre de cacao. En outre, la compagnie compte effectuer des travaux de réhabilitation et de réparation au niveau de sa ligne de production de beurre de cacao par presse hydraulique afin de la rendre pleinement opérationnelle et créer 120 emplois. Dans le cadre de ce projet, la compagnie entend faire appel à l'expertise de plusieurs fabricants mondiaux d'équipements comme donc, par exemple le Suisse Böhler. Avec un tel investissement, Wamco entend accroître sa productivité et par ricochet le volume de son offre en produits dérivés du cacao ainsi que de ses exportations qui sont destinées principalement à l'Union européenne et aux États-Unis. Pour rappel, la compagnie possède une capacité installée de traitement de 250 tonnes de cacao par jour. Elle a été fondée en 1947, ce qui en fait l'une des plus anciennes entreprises de transformation de fèves du pays. En RDC, Ivanhoe Mines a réussi à faire entrer en production le projet Kamoa Kakula, qui a le potentiel de devenir la future deuxième plus grande mine de cuivre au monde. La compagnie canadienne veut rééditer ce succès sur son projet donc de métaux du groupe du platine Platrif. En Afrique du Sud, le projet Platrif pourrait donc devenir dès 2030 la cinquième plus grande mine de platinoïdes au monde. Et c'est l'un des principaux enseignements à retenir de l'étude de faisabilité indépendante publiée lundi 28 février par la compagnie minière en charge du développement. S'appuyant sur les résultats de l'évaluation économique préliminaire réalisée en novembre 2020 pour le projet, la nouvelle étude de faisabilité table sur un scénario de développement en deux phases. La première, dont la mise en œuvre a déjà commencé, comprend une mine souterraine d'une capacité initiale de 700 000 tonnes. Et quant à la deuxième, donc elle verra la construction d'un second puits avec pour but d'augmenter la capacité de la mine à 3 millions, puis 5,2 millions de tonnes par an. Selon le calendrier de développement examiné, donc si Platrif devrait livrer ses premières onces de platinoïdes dès le troisième trimestre 2024, il faudra attendre 2027 pour voir la deuxième phase entrer en service en 2030 pour la voir atteindre sa capacité nominale annuelle donc de 5,2 millions de tonnes. La mine produirait ainsi chaque année 590 000 onces de palladium, platine, rhodium et or, mais également plus de 40 millions de livres de nickel et de cuivre.